moi, c'est Réseau André Narsan, hein, tout simplement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est que j'ai fait mes études, mes premières années d'études à l'île de La Réunion, juste après les grands événements de Madagascar en 2000, 2002, etc. Là. Je suis resté 2 ans à La Réunion, ce qui m'a permis tout simplement de travailler, de connaître surtout tout ce qui est architecture tropicale, architecture bioclimatique, etc., avec une connaissance assez approfondie au niveau des matériaux, matériaux bois, matériaux métalliques, comme ils utilisent pas mal ici. Et puis donc après, il y a 2 ans ici à La Réunion, et puis je suis passé à Paris-la-Villette. À Paris-la-Villette, je suis resté jusqu'à la HMO. Et qu'est-ce qu'on a fait tout simplement? Là, c'était complètement différent. C'est 2 cursus complètement différents. D'un côté, c'était l'architecture tropicale, et de l'autre, c'était plus l'architecture, on va dire, assez brute, assez brutale pour moi. C'était, j'appelais ça les poteaux poutres. Pour simplifier les choses, parce que c'était complètement différent. Et puis, c'est 2 cursus complètement différents, bien que ce soit complémentaire, évidemment. C'est que sur La Réunion, c'était surtout l'approche de l'architecture bioclimatique, et c'est qui est assez riche, de toute façon, parce que ça a vraiment permis de comprendre comment il fallait travailler avec, tout simplement, tout ce qui est insertion, tout ce qui est intégration sur un terrain, comment ça se passe. C'est d'autant plus qu'à La Réunion, on a beaucoup de problèmes au niveau cyclonique, au niveau aussi sismique par endroit, sans parler de tout ce qui est microclimat sur l'île. Donc ces approches-là ont été très très, très bénéfiques pour mes expériences ici à La Réunion. Ensuite, donc pour Paris, c'était autre chose. C'était plus des projets donc plutôt orientés avec les connaissances avec Mies van der Rohe, Frank-Claude Wright et tous ces architectes en fait qui m'ont vraiment donner le goût au sens du détail, c'est-à-dire les détails, que ce soit au niveau du design intérieur, mais aussi vraiment à aller à l'essentiel dans ce qui est dans l'art de bâtir. Voilà.
Ok, une question qui me turlupine un peu, parce que c'est la première fois que je parle à un architecte qui a été formé sous les tropiques. Est-ce que toi, tu trouves qu'il y aurait... tu sais, c'est La Réunion, donc c'est assez proche de Madagascar, mais quand même. Est-ce qu'il y aurait facilement un pont dans les styles, en fait, si, par exemple, on essaie de développer une... Moi, je parle pas d'école, hein. Je suis plutôt dans l'apprentissage, dans la transmission, en fait... des techniques de construction. Est-ce que toi, ça a été ça, y avait pourtant tu penses déjà que c'était facile, et est-ce qu'il y aurait un potentiel à explorer ce chemin-là?
D'accord. Alors, là où c'était facile, c'est tout simplement notre rapport à nous, étant malgache, notre rapport à l'environnement. On est finalement, c'est ancré en nous, c'est vraiment une culture, que ce soit la culture, voilà, on a le soleil, on a aussi des cyclones, on a tous ces éléments-là à prendre en compte. Donc ma venue dans l'école d'architecture de La Réunion a été beaucoup plus naturelle dans ce sens-là. Là où ça commençait à être compliqué, c'est au niveau des matériaux. On n'utilise pas du tout les mêmes matériaux, mis à part les partants, on va dire. Donc là, très vite, on nous a orientés dans tout ce qui est construction bois, construction métallique, comment il fallait jumeler ces deux matériaux-là. Et avec la prise en compte de tout ce qui est ventilation naturelle, quelque chose qu'on prête pas forcément attention quand on vit dans un pays comme Madagascar, puisque c'est on vit ça tous les jours. Donc voilà, ça m'a appris en tout cas à comprendre les éléments avec lesquels je devais jongler pour fabriquer une architecture. Pour les matériaux, comme je te disais, c'est complètement différent. Très vite, j'ai été, en fait, on nous a orienté plutôt dans le sens du détail. D'ailleurs, on ne peut pas faire autrement. Quand on travaille des matériaux comme le bois et le métal, on doit aller très vite dans le détail, le pourquoi, du comment. Tout est dimensionné. Tout est bien, tout est à sa place. Chaque trait, chaque dessin, chaque volonté architecturale a un sens. Donc là, on s'est orienté plutôt vers comment dire, des architectes comme Glenn Morcutt, par exemple, un architecte australien, si je ne me trompe pas, qui travaille des matériaux qui sont à l'origine très simples, comme le métal, la tôle, du vitrage, mais que finalement, orienté, implanté, inséré dans un site en prenant compte tout ce qui est richesse du naturel, du climat, ça donne vraiment une valeur à l'architecture. Et voilà, donc Madagascar, si je peux dire par rapport à Madagascar, quand j'étais à Madagascar, c'était plus la culture de la brique, peu importe la brique cuite, la brique alvéolée. C'est plutôt ça, mes connaissances à l'origine. Tout ce qui est enduit en terre, tout ce qui est soubassement en pierre, qu'on ne trouve vraiment pas ici, sauf peut-être dans l'architecture un peu coloniale, et encore je pense pas qu'il y en ait énormément ici. Donc c'est ces deux approches complètement différentes. Là où on peut se rapprocher, c'est au niveau de la maîtrise du climat. En termes de matériaux, il y a encore beaucoup de différences, je trouve. Parce que d'un côté, Madagascar aussi cette culture où de la terre qui est vraiment valorisée, pour un malgache, avoir sûrement ou peut-être une maison en métallique ou autre, c'est peut-être pas toujours bien vu, c'est peut-être pas suffisamment solide dans la culture du public. Contrairement ici à La Réunion où ils sont déjà passés à cette prise en compte là, c'est-à-dire que beaucoup de logements sociaux ont été construits avec du parpaing, tout simplement parce que les gens qui venaient de leur petite maison, de leur case en tôle, devaient être rassurés d'habiter dans des appartements dans du brut. Et voilà, il y a eu cette transition-là ici à La Réunion que je ne retrouve pas pour le moment à Madagascar. Donc voilà un peu mes perceptions en fait.
Bah là, littéralement, on a fait le pont là rapidement sur ta grande liste de questions. C'est allé naturellement et moi, j'avais même pas lu la question. En fait, finalement, tu voulais qu'on te pose des questions sur les matériaux, ça s'est fait. Et donc, je fais un peu le pont là. C'est matériaux durables pour la ville de demain en Afrique. Et puis, comment concevoir de nouvelles villes ? Puis finalement, c'est relié. Je ne sais pas comment tu composerais ta réponse par rapport à cette question.
Oui, alors, il est, à mon sens, hein, ce qui est important pour l'Afrique, c'est de comprendre qu'est-ce qui pourrait valoriser l'architecture africaine. Il y a pas mal d'écoles en architecture, on va dire, qui est ouverte en Afrique, qui impose vraiment une culture purement africaine, c'est-à-dire comment on compose avec la terre, comment on compose avec les essences de bois qui existent dans un site et autres. Et je pense que l'Afrique devrait s'orienter davantage dans ce genre de réflexion, parce que ça, c'est vraiment une culture que le grand public a facilement, on va dire, recours, et qu'ils connaissent parfaitement ce domaine-là, au-delà d'être un professionnel, je veux dire. Et d'ailleurs, nous, c'est en tant que professionnel, on doit, je pense, valoriser ce genre d'approche-là. Comment concevoir après les villes en Afrique ? les villes en Afrique, c'est assez difficile parce que c'est un grand sujet. C'est un très grand sujet. Je pense que ça va être difficile de résumer ça comme ça, mais concevoir une ville, c'est, pour moi, c'est tout d'abord répondre aux besoins des usagers. On ne peut pas concevoir une ville sur un trait. Sur un trait de crayon parce qu'on le voulait, parce qu'on avait un concept, parce qu'on connaît notre métier. Je pense que c'est d'abord comprendre de quoi la population a réellement besoin et à partir de là stratifier nos réponses en termes de priorité.
Et donc tu penses, parce que bon, toi tu as choisi d'exercer en France, maintenant on est à La Réunion. Tu te rapproches petit à petit dans ta façon de travailler. Est-ce que tu penses que maintenant, pour t'impliquer un peu plus dans les villes africaines, il y aurait quelque chose à changer ou c'est plutôt aux villes africaines de s'adapter au rythme européen ?
Ah oui, c'est une question très, très bien posée. Je pense que c'est les deux. Les villes africaines doivent s'adapter avec les besoins qu'il y a parce que finalement... Partout, on parle de besoins. De quoi la ville africaine est capable de produire, qu'est-ce qu'elle peut présenter à toute cette population qui vient d'ailleurs, qui ont des habitudes qui sont complètement différentes. Donc là, on parle de technologie, on parle des éléments comme ça. Et de l'autre côté, l'Afrique ne doit pas oublier qui il est, tout simplement. Qu'est-ce qui fait la valeur de l'Afrique en termes de population, de culture, d'architecture? Qu'est-ce que l'architecture africaine? Est-ce qu'on est... on serait isolé dans ce qui est architecture brique, architecture terre? Est-ce que réellement c'est ça dont l'Afrique a besoin? Moi, personnellement, je pense que c'est quelque chose qui est encore à développer parce qu'on ne connaît pas, tout. Et d'ailleurs, beaucoup de choses se sont perdues parce que c'est l'héritage en fait, qui ont été faits de manière orale et que nous, les générations d'aujourd'hui et futures, on est pratiquement en train de réétudier tout ça et je pense que c'est les deux, c'est que on doit savoir valoriser, on doit savoir montrer qu'est-ce qu'il y a de bien et de mieux sur le territoire africain, sans pour autant oublier qu'on doit s'ouvrir au monde.
Est-ce que tu penses que ce genre de révolution culturelle, ça se fait rapidement? Ou, comme diraient les gens,
c'est que... Révolution culturelle par rapport à quoi?
Par rapport à, tu dis l'appropriation. L'appropriation par rapport à la culture et aux matériaux. Il y a une façon, finalement, de, comme tu dis, dans la ville, comme tu dis, il faut d'abord qu'on comprenne notre ville et qu'on s'accepte.
C'est exactement ça. Je pense qu'on ne peut pas, et peu importe le projet qu'on présentera, de faire accepter des projets, ça passe tout bonnement par l'acceptation de ce projet-là par la population. Il faudrait davantage accentuer sur les démarches, en fait, on va dire collectives, hein, tout simplement, entre les professionnels qui, eux, pensent avoir les outils et les connaissances pour solutionner pas mal de choses. Mais de l'autre côté, il faudrait aussi commencer à comprendre de quoi la population locale a réellement besoin. Parce qu'avec cette course à la mondialisation, il y a toujours un décalage entre ce que vit une population locale et des volontés, je dirais, politiques ou autres qui sont autour de tout ça. Donc, il est certain que c'est pas facile, mais c'est à des professionnels comme nous, les architectes, les urbanistes, à nous de montrer que ça passe d'abord par par des projets qui sont acceptés par la population, et puis les politiciens aussi devraient comprendre qu'on ne peut pas, sous prétexte d'avoir des subventions par des organismes extérieurs, qu'on doit forcément produire à tout va des résultats qui peut-être à la longue deviendra difficile pour le pays d'accepter.
Je vais poser la dernière question pour vous deux. Comme ça, on fait un pont vers Serge. Et Serge, tu te présentes après. Donc, Erzou, tu m'as vraiment impressionné par le culot que tu as de dire que finalement, on peut des fois aussi tenir tête aux bailleurs et tenir tête aux standards qu'ils exigent ou qu'ils semblent exiger. Qu'on soit d'accord, hein. Il y a quand même un effet de globalisation et puis un effet où qu'on pense que ça marche ailleurs, ça marche chez nous. Tu as le droit de parler un peu de ton concours ou pas ?
De quel de concours ?
Oh my god, trop bien, j'adore, c'est comme les 20, les 20 millions d'euros de
l'IRIA. Non, pardon, non, je suis sérieux là par contre.
Moi je te dirais ton succès sur les concours en Afrique. Pas le concours en tant D'accord. que tel, mais la façon dont tu considères que c'est un projet acceptable pour l'Afrique.
Oui, alors les concours en Afrique, ben, ce qui est déjà, on va dire, qui était bien dans un sens, c'est que venant de Madagascar, on apporte quand même pas mal de similitudes dans un autre pays africain. On sait parler de la même chose. Donc là, les projets vont de sens, ça coule facilement, on va dire, sans dire les choses assez vulgairement, j'espère pas. Mais comment ça s'est passé réellement, c'est que on a répondu tout simplement à ce concours-là. C'est un concours en fait sur la ville nouvelle de Yenanga qui se trouve au Burkina Faso. C'est un concours international où pas mal de groupes, on va dire franco-burkinabé, ont répondu. Dans nous, avec QAV Architecture Studio, Beckman NTP, c'est quand même des grosses boîtes dont on est sorti assez fier de courir avec ce genre de poids lourd. Là-dessus, c'est juste une ville complètement nouvelle sur un terrain complètement vierge de 700 hectares sur lesquels nous on a réellement répondu sur le boulevard principal qui s'étale sur 3,5 km avec greffé autour on avait des parcs, des jardins, énormément aussi de programmes on va dire immobiliers, que ce soit du logement, que ce soit et autres. La demande, ce qui nous a quand même étonné au départ, c'est que la demande était assez de standing. La question vient tout de suite, mais comment est-ce possible de construire ce genre de grande ville aussi riche dans un pays où peut-être l'écart de l'économie locale est assez différente. Mais finalement, en répondant au projet, on a compris que le projet était sur plusieurs phases, plusieurs strates de demandes. Donc tout le monde, toute la société avait les capacités de s'insérer facilement dans le projet. Ce qui a permis, à mon avis, aujourd'hui, à la ville, qui fait quand même, je rappelle, 700 hectares, en train d'être construite. Et donc voilà comment ça s'est passé.
It's fine, so go ahead, let's take your time, Erzou. Est-ce que, en attendant, tu trouves pas ça assez extraordinaire, ce petit scoop qu'on a là de Serge?
C'est extraordinaire. D'autant plus que moi, ce que je trouve aussi extraordinaire, c'est le parcours de Serge, à savoir, il a deux cursus. Effectivement, on parle toujours d'opportunités quand il s'agit de ce genre de choses-là, mais il faut pas oublier que tout dépend quand même des personnes qui travaillent et que c'est avec beaucoup de difficultés au départ pour s'intégrer et autres, mais moi je suis assez je suis ravi de voir et d'avoir de parler avec Serge aujourd'hui pour son cursus et après pour tout ce qui est ville, sa comparaison avec la ville de Tanaï et la ville indonésienne, comment dire ça ? C'est intéressant parce que d'autant plus que la population, on est des populations qui se ressemblent. Quand j'ai été là-bas, on m'a pratiquement fait comprendre que j'étais plus indonésien que malgache. Donc là-dessus, il y a aucune ambiguïté. On a des origines indonésiennes et que si aujourd'hui les villes se ressemblent, finalement, c'est peut-être un bon retour des choses. Après, à voir comment ces villes-là vont évoluer de part et d'autre. Comme je disais, c'est pas les mêmes populations finalement du point de vue économique. C'est pas les mêmes cultures non plus, malgré qu'on a des origines similaires. Et reste à voir comment Madagascar évoluera. Est-ce que ce sera dans le même sens ou complètement différent ?